Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Jérôme Pinault. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux en direct, mais également en podcast. La première heure est déjà disponible. Tranquille ou cet après-midi, vous pourrez réécouter tout ça. On a parlé de la belle victoire du Paris Saint-Germain hier, 4-1. Est-ce que la saison du PSG, quoi qu'il arrive, déjà réussi à quelques jours d'affronter Liverpool, dans le studio RMC, évidemment, les GG n'étaient pas d'accord. Et c'est un petit peu chaud, et c'est ça qu'on aime. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, le 11e record du monde d'Armand Duplantis, qui grappille comme à chaque fois centimètre par centimètre. Est-ce que ça devient lassant ou est-ce que c'est toujours aussi excitant? 10h30, La Rochelle au bord de la crise de nerfs. Ronan O'Gara, le manager rochelais, a encore dégoupillé hier, lui qui a fait de son club un monstre européen. Eh bien, il n'y arrive plus. Peut-on virer un entraîneur qui a fait la légende de son club? Ce sera la punchline à 10h30 et puis 11h, c'est le match d'après pour l'Olympique de Marseille, d'après l'affaire Longoria. Justement, cet épisode peut-il plomber la fin de saison de l'Olympique de Marseille? On se posera la question. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Paul Claudel qui a dit un jour, on juge mieux les hommes de bas en haut que de haut en bas.
RMC, le bras de fer GG.
Mais ça continue encore et encore.
Premier essai pour Armand Duplantis, 6m23, c'est parti.
Oh, encore du monde, c'est sa première tentative.
C'est que le début, d'accord, d'accord.
At 6'24, this would be a new world record.
Oh yes, a world beater yet again.
Quelque chose vient de tomber.
Course d'élan de l'extraterrestre d'Armand Duplantis qui va planter la perche dans le butoir. Ça passe, ça passe. 6m25, c'est monstrueux.
Toujours même film qui passe.
Mondo Duplantis at 6'26. Oh, and he does it! Another world record for Mondo Duplantis.
Toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant.
Peut-être à nouveau record du monde dans quelques secondes, c'est parti, il s'élève, oui. Et ça passe du premier coup. Le monde, vu d'en haut par Mondo, ce soir est à 6,27.
Ça continue encore et encore.
Eh oui, ça continue. Armand Duplantis est un homme de record. Pour la 11e fois, le perchiste suédois a battu le record du monde. C'était vendredi soir, lors du magnifique concours organisé et créé par Renaud Lavillenie à Clermont, le All-Star Perche. Depuis 2020, Mondo Duplantis domine sa discipline et maîtrise son art. Depuis ce fameux 8 février où il a chippé justement le record du monde à notre champion français, la barre était alors à 6m17. Depuis, il grappille centimètre par centimètre pour culminer aujourd'hui à 6m27. En 2024, entre avril et août, le perchiste suédois a même battu 3 fois son propre record. Sergei Bubka, en son temps, faisait exactement la même chose, passant de 6 mètres en 1985 à 6m14 en 1994. Ce qui a fait dire hier à notre GG, Fred Weiss.
On n'a pas envie de le voir à 6m40, à 6m je ne sais pas combien. Parce qu'à un moment, honnêtement, moi, quand je pense à Bubka, bah, ça ne me fait pas rêver, en fait. Ça me fait penser à chaque fois, ok, il va gagner, il va encore battre le record du monde d'un centimètre, il va prendre un chèque et il va attendre la prochaine fois pour le rebattre. Donc moi, ça me saoule, ça m'a fatigué. Bubka, ça ne m'a pas plu et je rêverais de pouvoir les voir vraiment tenter le maximum, de savoir jusqu'où il peut aller.
Tenter le maximum d'un coup. Alors les records du monde de Duplantis, centimètre par centimètre. Est-ce que ça devient lassant ou est-ce que c'est toujours aussi excitant? Dans le coin gauche, la team lassant, représentée ce matin par Sarah Pitkowski. Et c'est tout. Dans le coin droit, la team toujours aussi excitant. Et Simon Dutin.
Ah zut, ouais.
Et Simon
alors,
Dutin.
Je me suis trompé dans le... Bon.
Non, c'est moi. Pardonnez-moi, c'est ma faute. C'est un 2 contre 2, toujours aussi excitant dans le coin droit. Marion Bartoli et Jérôme Pinault, Simon et Sarah. Vous êtes en retard. C'est serré sur les réseaux sociaux. On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport. 42%, oui, ça commence à devenir lassant. 58%, c'est toujours aussi excitant. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste attelé sur RMC Sport, Aurélien Tiersin. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Alors, explique évidemment à tous les auditeurs pourquoi Mondo Duplantis la joue comme ça, centimètre par centimètre.
Bah, évidemment, on pense tout de suite aux primes de record du monde, car Mondo en a 11 désormais. Les prize money sont énormes pour lui, entre 30 et 100 000 dollars offerts par son équipementier Puma, selon les médias américains, à chaque record. Et il faut ajouter à cela les primes versées par les organisateurs des compétitions. En championnat du monde, ça peut monter jusqu'à 100 000 dollars. C'est arrivé à Eugene en 2022. En meeting, ça dépend. C'est un petit peu moins. Lors du précédent record à 6 mètres 26 en Pologne en août dernier, c'était 50 000 dollars. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, il y a la motivation à conserver. Le Suédois n'a que 25 ans et il est recordman du monde depuis 5 ans. Il n'en avait que 20 quand il est devenu recordman du monde. Alors ce qui peut frustrer ou lasser, effectivement, c'est qu'on sait dès aujourd'hui qu'il vaut 6 mètres 30, 35, peut-être même plus. Mais s'il le fait dès aujourd'hui, derrière, sa carrière sera beaucoup plus fade. Il n'a pas de concurrent à sa mesure. Derrière lui, ça plafonne à 6 mètres 02. C'est le grec Emmanuel Karalis qui est le deuxième cette année. Le grand public ne le connaît pas. Duplantis a donc besoin de cette course au record pour continuer à exister. Et puis, bah, Fred Weiss le disait, il prend exemple tout simplement sur Sergei Bubka, qui a battu indoor et plein air confondu 35 records du monde entre 1984 et 1994.
Il est donc encore loin des 35 records du monde. Il en a 11 pour l'instant.
Dans le débat légende de la Perse, pour l'instant, Bubka est toujours au-dessus du Duplantis, malgré tout.
Ok, Aurélien, tu restes avec nous. Merci pour ces précisions. Tu connais parfaitement cette discipline. Tu connais évidemment Mondo Duplantis et tous les perchistes français. Donc, tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce que ça devient lassant ou est-ce que c'est toujours aussi excitant? C'est donc un 2 contre 2. Les copains du lassant, vous êtes derrière. Sarah Pitkowski, pourquoi lassant?
Alors, lassant, à prendre avec de la mesure, hein, évidemment, puisque qui sommes nous pour nous permettre
vous nous connaissez
de juger,
dans cette émission, la mesure.
De juger un athlète comme celui-là. Impressionnant, c'est sûr. Un peu lassant, en fait, avec l'impression que ce suspense, il est artificiel, tout simplement. Ces records, quand tu vois le record au premier essai à 6,27, avec une telle marge, en fait, il fait monter les enchères en même temps que les primes, et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Mais forcément, quand on regarde, il y a une absence de spontanéité, tout simplement. Donc c'est pour ça que que c'est un petit peu lassant. Finalement, quand je regarde les images de ce All-Star Perche, moi, ce qui me fait kiffer, c'est Renaud Lavinelli qui revient à 5,91 parce que j'ai un storytelling avec ce raté de la qualif des Jeux Olympiques, ses blessures, revenir à 35 ans et sauter encore 5,91. Bah, je suis plus enthousiasmée par Duplantis qui encore, à côté de son 6 mètres 27, il va embrasser sa copine et il nous fait toujours le même petit rituel. Voilà, c'est un petit peu lassant.
D'ailleurs, 5,91 pour Lavinelli à 38 ans, c'est le record du monde des masters des plus de 35 ans.
Ouais.
Donc voilà, c'est à noter aussi.
Donc voilà pourquoi je dis que c'est un petit peu la sorte. Ça fait un peu grincheux, mais bon, ça manque de spontanéité, quoi.
Mais on va pas s'excuser non plus, cher Sarah, on a bien le droit de penser ce qu'on veut, non?
Oui, parce que nous, on saute juste la haie de 60 cm, éventuellement.
Oui, d'ailleurs, je me demande quel est le record de Fred Weiss à la perche. Il faudra qu'il nous communique ses performances.
Sous la perche.
Mais Aurélien l'a souligné, évidemment, il n'est pas question de. Tu vois, évidemment, on va passer pour ceux qui mangent des chips dans le canapé en disant.
Ça, je te laisse, j'ai envie de manger des chips.
Il est vraiment mauvais, j'en mange pour deux, t'inquiète. Mais non, il y a. Aurélien l'a souligné, il y a quand même le fait qu'il n'y a aucune concurrence, c'est-à-dire il se pointe sur le sautoir, ouais. Tu sais qu'il va gagner, il sait qu'il va gagner.
Même au JO, l'enjeu, c'était pas de savoir s'il allait avoir la médaille d'or, c'était s'il allait passer 6 mètres 25.
Ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques cet été, c'était en effet extraordinaire.
Mais il va quand même pas s'excuser de tout ça, quand même.
Il va prendre
le temps de les battre pour durer dans le temps.
Là où j'ai envie de le défendre, c'est que je parle sous le contrôle d'Aurélien. Bubka, il faisait exactement pareil. Il a amélioré ça 1 cm par cm. Il n'était pas fou à l'époque où on avait besoin.
2 cm parfois.
Oui, parfois. Ah, bon, peut-être qu'il prendra en compte ces critiques, mais il y a un effet de déjà vu. C'est vrai que qui banalise finalement un petit peu la performance. Après, si tu t'intéresses aux grands sportifs de très haut niveau qui ont eu l'habitude de battre leur propre record du monde, bon, tu regardes la liste, c'est pas des gens qui ont fini non plus par lasser tout le monde. Tu vois, en natation, il y avait les Thorpe, Phelps, les Deki, c'est quand même des noms mythiques.
Bon, oui, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire que là, perche à ce. C'est un sport, tu peux pas faire la même chose au saut en longueur. Je veux dire, c'est un sport où c'est toi qui mets ta barre et c'est toi qui bats ton record par rapport à la barre que tu mets en place. Et c'est ça le nœud du problème et pourquoi on fait ce débat aujourd'hui. Et j'ai envie de vous entendre, évidemment, Jérôme, je sens que t'as envie d'y aller. Et Marion Bartoli. Mais dans le débat en tout cas. Oui. C'est qu'à un moment donné, Mondo Duplantis, peut-être qu'on ne verra jamais ce qu'il est vraiment capable de faire. Et c'est ça qui est frustrant.
Il ira
à 32 ans, à 33 ans, tout le monde le sait, il sera forcément moins performant, alors qu'aujourd'hui, il a peut-être 6 mètres 40 dans les jambes.
Mais ça, il le sait.
Mais oui, mais
on ne le verra jamais.
Oui,
mais tu sais pourquoi, Jérôme.
Si il se blesse dans 3 ans, tu le sais très bien, tu peux te préparer de moyenne.
Oui, mais s'il se blesse d'ici là.
Que Simon puisse le voir de cet œil-là, Sarah, je comprends. Il y a le côté spectateur. Mais nous qui avons gagné notre vie grâce au sport, il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier et qu'il a raison de faire, c'est prendre l'oseille tant qu'il peut la prendre. Et pourquoi il va péter 20 cm alors qu'après il pourra plus battre, donc plus passer à la
mais
caisse.
Toi, parce que toi,
ils vont pas le payer pareil.
Attends,
quand ils auront,
en tant que sportif de haut niveau, toi t'es capable de savoir que la performance, il l'a peut-être dans les jambes, mais dans 2 ans, dans 3 ans, il peut se passer tellement de choses. Et finalement, s'il rate, s'il y a quelqu'un qui un jour fait 6,35 et lui il avait 6,40 au bout de sa perte, mais il a attendu tellement longtemps avant de le faire que finalement, parce que c'est un sport d'impact, je pense que tu peux pas sauter toute ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je pense que ton énergie, enfin, il y a des choses qui diminuent. Donc en fait, moi je pense qu'à terme, peut-être il hypothèque un record juste exceptionnel qui
ne sera jamais battu. Exactement.
Qu'il a peut-être
Moi je suis dans je me mets dans la, je me mets pas de Duplantis, mais je me mets à sa place. Je vais battre des records année après année, centimètre par centimètre. Je vais donc vivre très largement de mon sport. Je suis désolé, je vais parler causal.
Oui. Bah oui, mais c'est un axe,
il va mettre la barre à 6,38. Mais, ou à 6,30. D'accord? 32, 33. Il va avoir pris autant d'oseille que de record. Bah. Okay. Une fois que sa retraite, elle sera
prête.
Qu'est-ce qu'il en a?
Bah, c'est de la négo. Okay.
Tu changes.
Okay. Il n'y a qu'une raison financière. On a compris.
Mais vous croyez qu'elle n'est pas financière? Qui autour de la table pour me dire sa motivation n'est pas financière?
On est juste financière. Mais vous êtes des sportifs de haut niveau. Évidemment qu'elle est financière. Mais à un moment donné, c'est d'entrer aussi dans l'histoire. Alors, il y est aujourd'hui.
Il va y rentrer.
Mais il peut rentrer dans l'histoire. Total, c'est-à-dire qu'il peut ne jamais être battu. Marion, là,
tu n'es jamais sûr.
Moi, je vais aller sur 2 points. Le premier, c'est que j'ai eu la chance, pendant les Jeux Olympiques de Paris, d'être dans le stade pour son record olympique, lorsqu'il franchit la barre. Ça a été pour moi un des plus beaux moments d'émotion, on va dire, pour un sportif non français, parce que bien évidemment, il y a l'âme patriotique qui parlait sur les records des Français, mais sur quelqu'un qui était un athlète que je voyais pour la première fois en direct dans un stade, il y a eu un moment d'émotion globale et totale de l'entièreté du Stade de France qui m'a vraiment marqué. Et tout le monde était resté pour le voir sauter. Il n'y avait plus aucune compétition à part lui. Il n'y a pas une personne qui est partie. Et il y a eu un moment d'émotion globale qui m'a vraiment marqué. C'était une des images très marquantes pour moi de ces Jeux Olympiques. Encore une fois, en dehors des sportifs
français. Mais c'est les Jeux.
Donc, oui, mais banaliser un record comme ça en disant oui, mais il a beaucoup plus, donc pourquoi il fait centimètre par centimètre? Là où je rejoins totalement Jérôme, c'est qu'il Boubka monnayait son talent. Je suis désolée, Duplantis, il serait même, je ne vais pas dire bête, mais en tout cas, ça serait une stratégie qui serait plus que questionnable si il disait, ben voilà, aujourd'hui à 25 ans, je vais mettre 6 m38 ou 6 m35, je peux les faire et après. Donc en fait, pour qu'un athlète continue à se motiver, pour qu'un athlète continue à s'entraîner, pour qu'un athlète continue à être performant, Sarah parlait de sport à impact, ça veut dire de la pliométrie. La pliométrie, c'est effectivement le rendement élastique des muscles pour pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus haut et de sauter beaucoup plus loin. Ce rendement élastique, c'est énormément d'entraînement à faire. Si à un moment donné tu sens que t'as atteint entre guillemets ta limite et que t'as plus rien derrière et que t'as seulement 25 ans, tu vas faire comment pour te motiver à chaque fois tous les jours pour aller prendre ta perche et t'entraîner? Et là, moi, je rends un immense hommage à Renaud sur ce qu'il a fait avec son All-Star perche, c'est que justement il arrive à attirer le meilleur du monde actuellement, qui a révolutionné par son style aussi la perche, parce que Boubka avait révolutionné bien évidemment d'une certaine façon aussi par ses records, mais Mondo Duplantis, qui s'est beaucoup servi du style de Ronald Lavillenie, l'a révolutionné d'une autre façon. Il arrive à attirer énormément de public. Si les gens n'étaient pas passionnés,
juste pour ça d'ailleurs.
Mais à toute façon,
juste pour de la perche.
Exactement, mais de toute façon, il va le franchir et puis de toute façon, ça nous intéresse pas. Il y aurait pas hier à Clermont-Ferrand une salle en feu, des gens qui étaient complètement enthousiastes justement à l'idée de voir ce record passer et le voir passer à la première tentative avec une facilité, une aisance qui est déconcertante. Donc moi, ça me rappelle quand même, je suis désolée, Usain Bolt dans une certaine manière, la manière dont il a dominé sa discipline, ça me rappelle Edwin Moses, la manière dont il a dominé le 400 mètres haies, et on est quand même tous admiratifs de ces champions qui dominent leur discipline. Donc moi, non, effectivement, je m'en lasserai pas.
Non, okay. Pour rebondir sur ce que disait Marion, alors effectivement au Stade de France, en plus il y a l'histoire entre Renaud Lavillenie qui est l'idole de Mondo Duplantis. Il y a tout simplement le nom Armand Duplantis qui, en tant que Français, ça résonne un petit peu, donc on le soutient aussi pour ça. Mais comme elle le disait, faut pas aller. Il y a les Jeux Olympiques certes, mais même le All-Star Perche est devenu le meilleur meeting de l'histoire. Là, celui-là avec 6 perchistes à plus de 191, mais également il est considéré comme le meilleur meeting du monde de la perche grâce à Duplantis qui, par amitié et par amour pour Renaud Lavillenie, est aussi toujours
c'est ça
là.
C'est fantastique.
Donc, c'est vraiment, il électrise la foule, quoi qu'il arrive. Même si on sait qu'il va passer, c'est vrai qu'il est là. Et tu me posais la question en off, Jérôme, sur à combien il peut aller à l'entraînement, par exemple. À l'entraînement, il va moins haut. Il n'a jamais sauté 6,40 à l'entraînement parce que c'est avec un élastique. Il faut tellement risquer, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais il risque tellement de choses en pliant la perche, parce que le matos, c'était le même pour Boubka que pour Duplantis. Donc là-dessus, il n'y a pas les perches, les pointes, etc. Les perches, ce sont les mêmes qu'à l'époque.
Il n'y a pas la combi de Torp.
Peut-être avec une combi, tu peux peut-être fendre l'air un peu plus vite. Non, je plaisante. Mais voilà, Duplantis n'a pas sauté 6,50 à l'entraînement. C'est vraiment en compétition qu'ils font leurs meilleurs résultats.
Comme tu disais, ils passent, et là c'est très impressionnant, largement au-dessus
c'est
de la barre.
C'est Simon Doustin.
Là, moi, je voulais demander à Aurélien, parce que moi, je comprends, encore une fois, que du coup, on mette le curseur sur le pognon que ça lui rapporte et qu'on dévalue un petit peu la performance. On s'y habitue, c'est humain. Donc, on se représente pas vraiment les efforts que l'investissement à l'entraînement. On a l'impression que c'est facile pour lui. Du coup, bon, il fait pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que, justement, et c'est pour ça, moi, je comprends l'agacement de Fred, est-ce que, qui décide? Est-ce que c'est forfaitaire? Tu bats le record du monde, c'est temps et point barre. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, justement, pour l'inciter à aller chercher plus haut, de mettre une prime plus haute si tu le bats de 2 ou 3 cm, tu vois ce que je veux dire, d'augmenter la prime et que ce soit pas juste un forfait, parce que c'est pas juste que si tu fais plus 10 cm, c'est pas juste que tu
attrapes
autant que 1 cm.
On en parlait juste à l'instant avec Sarah Ossianoff, c'est-à-dire que il se peut aussi qu'un jour cet homme dise, bon, vous mettez combien sur la table et je passe tant. Et là, c'est un vrai. Mais il ne va pas le faire tout de suite. Il n'a aucun intérêt à le faire tout de suite.
Aurélien,
je peux juste poser la question bateau que je rappelle souvent sur certains sujets. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit sont les autres pays face à Duplantis, parce que c'est quand même très franco-français. Et si Duplantis s'appelait Lavillenie, est-ce qu'on ne serait pas très heureux qu'il le fasse centimètre par centimètre, parce qu'à chaque meeting, il remplirait un stade et nous, on serait tous derrière.
Non, mais Marion le dit, centimètre par centimètre. C'est le Usain Bolt aujourd'hui.
Voilà aussi
c'est
la vision,
donc tout le monde
la vision qu'on a, nous, parce que. Il est un de nos chouchous parce qu'il est quand même sa relation avec Renaud Lavillenie fait de ce type-là qu'il est presque
français
de chez nous. Quoi, voilà.
Ouais.
Mais s'il l'était vraiment, ça nous exciterait forcément plus. C'est aussi une question de feeling par rapport au type.
Il peut sauter combien? Est-ce que ça, on arrive à le mesurer, à le quantifier?
Ben voilà, donc ses plus beaux sauts, par exemple, typiquement, ben là, 6 m27, on voit bien que le bassin est à minima 10-12 cm au-dessus. Ouais. Alors après, il y a une question de profondeur. Les perches, lui, saute avec des perches très dures. Il est le plus rapide. Il a fait 10-37 sur 100 mètres. Par exemple, voilà, c'est le perchiste le plus rapide qui a un physique frêle, mais tellement solide et costaud qu'aujourd'hui, sincèrement, 6-35, c'est jouable, clairement. 6,40, ça commence à. C'est pour ça que là, ça serait excitant, parce que là, il y aurait un vrai cap à passer. Mais ça, effectivement, si on lui propose un énorme prize money quand il aura 26, 27, 28 ans, peut-être qu'il y pensera. Mmh. Parce que dès aujourd'hui, il taquine Renaud Lavillenie avec un décathlon, possiblement. Il a battu Carsten Warholm, champion olympique du 400 m sur 100 mètres. Donc déjà, il a aussi fait une chanson bop sur laquelle il saute au All-Star Perche. Donc on voit déjà qu'il commence à chercher d'autres choses pour.
Il pourra aller sur une autre motivation. Discipline.
Bah oui, le décathlon.
Ouais.
Le décathlon,
on y pense.
Alors après, il y a les lancers. Alors les lancers, il serait extrêmement faible au lancer, forcément.
Mais sur
avec 6,30 au décathlon, tu marques quelques points quand même. Hein.
C'est avec la perche. Et surtout qu'il fait 6,37 ou 100 mètres, là, il éclate aussi pas mal de décathloniens.
Ouais. Ok, il y a Nicolas qui nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Salut Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Bonjour. Tu es dans le camp de l'excitation ou de la lassitude?
Alors moi, sincèrement, je suis dans le camp de l'excitation. Alors désolé parce que j'ai ma fille qui crie en même temps.
Elle veut participer au jeu.
C'est normal, elle est dans l'excitation aussi.
On dirait Christophe Fessieux derrière. Vas-y.
Non, je suis vraiment dans l'excitation parce que il faut qu'on se rende compte des performances qui sont faites par cet homme-là et toute la beauté en fait qui réside dans ce sport. Ça reste un sport hyper artistique, limite romantique. Enfin, on a vraiment ce défi de l'homme face à la nature, face à la gravité. Ça demande de la rigueur. Faire des records, c'est pas donné à tout le monde. Et on est loin de l'image, voilà, du simple gars qui saute avec un bout de bois. Enfin, c'est tout. Comme disait Marion, il y a tout ce système de pliométrie. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a tout l'entraînement. Et c'est aussi les valeurs que diffuse ce sport qui sont belles et qui fait qu'on doit l'aimer, qu'on peut que être impressionné par ce que fait Mondo Duplantis. Quand on voit justement tout ce partage qu'il y a avec Ronola Vieni, et même le partage qu'il y a avec tous les autres athlètes, on le voit lors des grandes compétitions, ils sont tous ensemble, ils forment une famille. Enfin, c'est vraiment un sport qui est beau. Et pour rebondir sur ce que pouvait dire Jérôme sur quelqu'un qu'il déteste absolument, pour ne citer que lui, Lance Armstrong, enfin, c'est un sport qui est propre. On n'a jamais eu de gros soucis dans la perche. Et ça montre aussi les performances qui sont faites par ces hommes-là dans cette discipline. Et c'est aussi le côté où c'est quand même un sport qui est dépendant de beaucoup de choses. J'en reviens sur le débat qui avait été fait entre Teddy Riner et Ronola Vieni en 2016, quand Teddy Riner s'était plaint du fait que Ronola n'avait pas réussi à tenir la pression face au public de Rio. Il faut quand même se dire que c'est des gars qui sont à plus de 6 mètres, ils sont dépendants de la piste, ils sont dépendants de leur perche, des conditions météorologiques. Donc je pense qu'on peut pas ne pas se réjouir des records qui sont faits. Alors oui, c'est sûr qu'il peut sûrement passer beaucoup plus. Mais comme le dit Jérôme, c'est un sport où ils sont pas forcément super bien payés, super bien exposés. Donc on ne peut que comprendre le fait que Mondo Duplantis se prenne ses prize money à chaque.
Ouais,
à chaque
puis, de toute façon, on s'inquiète plus pour Mondo Duplantis au niveau du portefeuille. Hein. Non, c'est devenu une véritable star au-delà de la perche. Merci beaucoup, Nicolas.
La vie dure longtemps, les garçons. Une carrière, c'est court.
Très bien.
On peut gagner de l'oseille très vite et beaucoup, mais ça peut vite partir aussi, croyez-en mon expérience.
Merci Nicolas d'avoir été avec nous, d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous tous les deux, avec ta fille évidemment. Merci aussi à Aurélien Tiercin.
Que tu peux embrasser aussi, sa petite fille.
Bah, oui, Aurélien ou la petite fille? Nicolas, comment s'appelle ta petite fille?
Louise.
Comment?
Louise.
Louise,
très beau prénom, elle a quel âge?
Elle a 18 mois.
18 mois. Elle veut participer, elle veut nous dire un mot ou pas? Dans les grandes gueules.
Ouais, là, c'est un petit peu compliqué. À part papy et maman, ça, c'est pas, on va dire autre chose.
D'accord. Bah, qu'elle nous le dise. Elle peut nous le dire. En plus, c'est la fête des grands-mères. Est-ce qu'elle peut nous dire mamie ou pas? Dis-nous. Vas-y, Louise.
Louise, tu dis mamie? Non.
Non.
C'est
ah oui, c'est véritablement pas Christophe Sessieux, parce que quand on lui donne un micro, il le bouffe. Hein. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec
merci
nous.
À vous.
Et bon dimanche en famille, évidemment, Aurélien Tiercin. Merci beaucoup. Merci. Toi qui suis aussi l'Olympique de Marseille, tu viendras nous donner des informations. À partir de 11h, on parlera de l'OM. Bon, c'est la musique de la Ligue des Champions qui concernera peut-être l'OM l'année prochaine, mais là c'est pour le Paris Saint-Germain. C'est le moment pour vous de vivre l'expérience RMC, de gagner vos places Paris Saint-Germain-Liverpool mercredi prochain. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16, il est 10h30. Bonne chance à tous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Marion Bartoli. Ce matin, dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Mais GG, vous avez proposé 4 débats ce matin et alors c'est l'une des premières fois où ça arrive. C'est extrêmement serré entre vous 4. Pour l'instant, c'est Jérôme Pinault qui est devant avec la Rabobank de retour dans le peloton. 28%. Ensuite, il y a le défi fou de Pauline Payet. Elle s'est proposée par Sarah Pitkowski, 27%. Elle veut défier des hommes au tennis. Alors là, il s'y attendait pas. 25% pour le hockey sur glace.
Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi peu.
Voilà. Il va devoir préparer son sujet parce que là,
je pense qu'il y a tous les licenciés du hockey qui ont appelé.
Je suis assez surpris parce que pour l'instant,
il y en aura plus maintenant.
Gérard Piquet qui veut changer le tennis, c'est un très bon sujet, c'est à 20%. Alors c'est...
Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà essayé et qu'il s'est foiré.
Ok. Bon, en tout cas, résultat, dans 10 minutes, restez bien avec nous. Sa petite entreprise connaît bien la crise. Hier, le Stade Rochelet a perdu pour la 6e fois de suite. C'était sur la pelouse du stade français, 22-17. Le mythique entraîneur de La Rochelle, Ronald O'Gara, n'y arrive plus. Son club coule, jamais en silence, car l'Irlandais, vous le savez, a la langue bien pendue. Lui qui a fait la gloire des Maritimes, double fois champion d'Europe en 2022 et 2023, deux fois finaliste du top 14 en 2021 et 2023. Eh bien, il est encore dégoupillé hier après la rencontre. L'objet de son courroux, le carton rouge de Skelton après un déblayage dangereux, pour lui c'est juste incompréhensible. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est toujours un équilibre à trouver entre aggression, intelligence et acte de nettoyage, parce que dans le lobby, vous avez le droit de nettoyage une rock. Malheureusement, aujourd'hui, on est à Parc de Princes. Rien de vous, Neymar. Ça, c'est une journée noire pour le lobby. de regarder un rouge pour ça. J'essaie de ne pas protéger Will parce que ce n'est pas bien, mais un rugbyman de faire ça, c'est assez intéressant ce geste.
Pour lui, le joueur du Stade français a simulé. On était au Parc des Princes, on a vu Neymar. Voilà la sortie de Ronan O'Gara. Peut-on virer un entraîneur qui a fait l'histoire d'un club? Peut-on virer un homme comme Ronan O'Gara? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Marion Bartoli.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Oui. Tout le monde me répond oui à cette question avant de débattre, car il y a forcément des nuances. On va retrouver notre journaliste rugby sur RMC Sport, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut à tous et à toutes.
Cette semaine, les Rochelais étaient déjà, avant cette rencontre, au bord de la crise de nerfs.
Oui, pourtant la situation au classement n'est pas catastrophique. Ils sont 9e, mais à 2 points seulement du top 6. C'est vraiment la série en cours qui est très mauvaise. 6 défaites de suite. Les Maritimes n'ont gagné qu'un seul match en 2025. C'était début janvier sur le fil contre une équipe toulousaine très remaniée. L'effectif est peu garni et vieillissant. La plupart des cadres, Dulin, Leeds, Seteni, Noël, Antonio, Skelton ont passé la trentaine. Pour remonter la pente, il faut se serrer les coudes. Mais le manager irlandais Ronan O'Gara, connu pour ses sorties fracassantes, est apparu un petit peu moins en forme cette semaine. 10 minutes seulement en conf de presse jeudi dernier, une première dans l'histoire de Ronan O'Gara à La Rochelle, et des déclats un petit peu étonnantes.
La fin devient évidente pour tout le monde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une crise, on doit accepter ça. C'est moi le plus grand responsable, c'est mon club, j'aimerais battre pour le club. Est-ce que les joueurs se battent pour le staff? Pour moi, l'évidence aujourd'hui, non. C'est une vraie option, si le message passe pas, que peut-être c'est meilleur sans moi.
Pour autant, O'Gara n'est pas menacé dans l'immédiat. Il a encore 2 ans de contrat, compliqué de s'en séparer. On parle plutôt de changement au sein de ses adjoints à l'intersaison. Son capitaine est à l'honneur. Pierre Bourgarit a tenu à rappeler que les joueurs étaient toujours derrière lui.
Je suis pas forcément d'accord avec lui sur ça. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui aient permis de se battre pour le club ou pour l'équipe, ou plus de se battre pour plus les joueurs que pour le staff. On est tous dans le même bateau et... Quand on rentre sur le terrain, c'est pour défendre nos couleurs. Et ça, je peux pas aller à l'encontre de lui sur le fait qu'on les a mal défendus sur les dernières sorties. Ouais, pour nous, il est l'homme de la situation. Il est là. Il a un contrat jusqu'en 2027 et il sera l'homme de la situation jusqu'en 2027. Dans nos têtes, je pense, dans toutes les têtes des joueurs, c'est clair.
C'était mieux dans l'engagement à Paris. En tout cas, les Rochelais ont quand même accroché un bonus, mais les vacances prévues la semaine prochaine devraient être annulées pour continuer à travailler et revenir en forme le 22 mars. Réception cruciale de Castres, toujours sous la houlette d'O'Gara, l'homme qui a mené les Maritimes 2 fois sur le toit de l'Europe.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, tu restes avec nous pour ce débat. Peut-on virer un entraîneur qui a fait l'histoire d'un club? Parce que c'est ça aujourd'hui Ronan O'Gara, j'ai envie de le comparer. Et dans le débat, on va le comparer un peu à Pep Guardiola, qui a fait la gloire de Manchester City, la renommée de Manchester City, qui a placé Manchester City sur la carte. Eh bien La Rochelle est sur la carte du rugby aussi aujourd'hui, grâce à Ronan O'Gara. Qu'est-ce qu'il y a Sarah? Je te sens agacé.
Non, mais parce qu'en fait je viens de réfléchir.
Ah! Oh là,
il était temps.
Ça fume.
Et je pense que je peux te dire non.
Reste prudent,
toi. Pour toi, c'est non désormais. Oui, vas-y, tu commences. Pourquoi non?
Bah parce qu'en fait, tu peux répéter exactement la question.
Peut-on virer?
J'ai pas compris.
Et je vous assure que cette séquence est réalisée sans trucage. Oui. Peut-on virer un entraîneur qui a fait l'histoire d'un club?
Non. Non, tout simplement parce que généralement, les géants et les légendes qui marquent un club, on les vire pas.
Ils s'en vont avant.
Et oui.
Ils partent d'eux-mêmes.
Ils partent d'eux-mêmes.
Ben c'est ça l'objet de la question. Ben
voilà. Donc c'est pour ça que je te dis non. Je viens de la sémantique.
C'est ce qu'on conseille à Ronan O'Gara.
C'est-à-dire que je vais vous prendre des comparaisons avec le foot. Il y a eu ces questions-là quand le Real, ça allait plus avec Zidane. La question, elle était, on se la posait partout. Est-ce que c'est un entraîneur qu'on peut virer quand on est le Real? Mais Zidane, il a pas été viré. Il est parti. Et on est même allé le rechercher en plus.
Oui, enfin bon, Sarah, le Real ne l'a pas fait avec Zidane, mais il l'avait fait avec Del Bosque, qui avait gagné 2 Ligues des Champions. Oui, l'a fait avec Ancelotti lors de son premier passage.
Oui, mais je pense que Zidane est au-dessus.
Qui avait remporté
le titre. Ils ont pas fait la gloire du club, c'est pas eux qui ont installé le club.
Mais j'en ai. Oui. Moi, parce que moi j'ai répondu oui, ils peuvent le virer évidemment, rien ne les empêche. Et il y a déjà des exemples. Je pense que ce serait une bêtise. Et je, moi,
de quoi de virer O'Gara?
De virer O'Gara, oui, qui mais du contraire, est quand même le plus grand manager de l'histoire.
On est d'accord,
mais si lui
décide de partir, si lui, comme il n'arrête pas de le dire.
Bah oui, mais d'accord, mais c'est plus la question qu'on nous pose.
C'est pas la question. Moi, je veux savoir si les propriétaires d'un club, ce Ronan O'Gara, ce manager, a fait de La Rochelle une place forte, insoupçonné en Europe. Oui. Est-ce que quand tu es propriétaire, tu peux virer un Ronald O'Gara?
Évidemment.
Comme
évidemment.
Quand tu es propriétaire de Manchester City,
oui, je te réponds oui, mais je pense qu'il ferait une bêtise. Encore une fois, des exemples, j'ai cité Del Bosque, j'ai cité Ancelotti. Le plus marquant, c'est Claudio Ranieri en Première Ligue avec Leicester. Il gagne le titre en 2016, alors que l'année d'avant, il se sauve à la dernière journée. Et moins d'un an après, il est viré. Alors que ça va être compliqué pour Leicester de regagner un titre.
Après, là, on est en train de prendre des exemples du foot. Et le rugby est quand même un petit peu différent.
Oui, non, mais c'est sport business, à un moment donné, le rugby. Arrêtons de protéger le rugby en disant c'est pas le foot. C'est en train de le devenir sérieusement.
O'Gara, il est clivant pour le moins. Et là, je vais être obligé de m'appuyer sur Pierre qui suit l'actu du top 14 toute la saison. Bon, O'Gara, il a quand même gagné, il fait gagner le Stade Rochelet. Moi, je pense que plus que virer O'Gara, il a commencé à admettre dans la semaine après la défaite face au Racing qu'il y avait un début de fracture avec certains mecs du staff, certains mecs du vestiaire. Donc, il est lui-même peut-être en train d'entrouvrir la porte. En tout cas, de dire à ses dirigeants, il va peut-être falloir. Moi, je pense que le Stade Rochelet s'est insuffisamment régénéré en termes d'effectifs.
Ça, c'est sûr.
Et je pense que
et ça a changé pour la saison
et justement,
prochaine déjà.
T'as Le Garec, Niniashvili, Pacom, qui est un gros espoir, qui vont arriver, qui vont régénérer cet effectif. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur un O'Gara qui est un winner et justement peut-être vidanger un petit peu plus en profondeur l'effectif Rochelet.
Peut-on virer un entraîneur qui fait et qui a fait l'histoire d'un club? C'est notre question ce matin dans les grandes gueules du sport. Marion Bartoli.
Alors, pour moi, sur la situation précise d'O'Gara, je serais effectivement assez nuancée, comme le dit Simon, parce que je pense pas que ça soit totalement uniquement de sa faute. Mais pour faire un débat plus large et prenant un débat pas uniquement orienté là sur le cas précis d'O'Gara, oui, bien sûr, que tout entraîneur est virable. Après, tu peux le faire avec du tact, tu peux le faire avec du respect, tu peux prendre en compte l'impact émotionnel que ça va avoir sur l'héritage du club, sur les supporters. Mais Arsène Wenger a fait 22 ans comme entraîneur à Arsenal et il est parti en 2018 parce qu'il y avait des mauvais résultats. Sir Alex Ferguson à United a entraîné pendant 27 ans ce club. C'était une légende absolue du club. Alors oui, tu peux dire qu'il est parti lui-même.
Il était aussi un petit peu discuté en
interne, mais qu'à un moment donné, il a senti aussi que c'était plus l'homme de la situation et qu'il pouvait plus le faire. Donc, je pense qu'il y a du ressenti de la part de l'entraîneur et c'est ce qu'a commencé à évoquer quand même O'Gara dans sa conférence de presse en disant que peut-être que c'était plus lui le meilleur entraîneur possible pour ce club-là. Donc, il y a un ressenti de l'entraîneur. Il y a des choses qui se passent en interne. Et ensuite, à la fin, ça reste quand même du business. Et c'est la décision pour le bienfait du club qui doit être pris en compte. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter uniquement sur ce cas extrêmement précis. Parce que je pense que l'effectif de La Rochelle, il paye les mauvais résultats à cause de cet effectif qui est vieillissant. Et que là, dans ce cas précis, je ne pense pas que ça soit forcément uniquement la faute de l'entraîneur. Mais les clubs n'hésitent pas à prendre des décisions difficiles pour protéger leur intérêt. Parce que ça reste un sport business et parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir une réalité économique qui va au-delà de l'affectif par rapport à une personne.
Pierre Thévenet, précision.
Ouais, juste rapidement sur La Rochelle, la série est cata, mais je le disais tout à l'heure, ils sont à deux points du top 6 hein, et O'Gara continue à parler en cours de presse.
Oui, mais ils sont sur une sixième défaite consécutive.
Évidemment, toute compétition est en feu.
Après le match du Stade français, il a aussi dit je veux être champion de France cette année. Donc le Stade Rochelle n'est pas menacé par la relégation. Pour l'instant, ils sont encore dans le coup, même si la série est.
Oui, mais ils ont des ambitions qui font qu'ils veulent tirer la sonnette d'alarme.
De Rochelet ne doit pas être 9e de top 14.
Non, évidemment.
S'ils ne sont pas derniers, on est bien d'accord. Jérôme Pinault, j'ai senti que tu voulais nous parler d'argent encore.
Évidemment, parce que je crois qu'on est d'un temps qui n'existe plus, nous les romantiques. Aujourd'hui, il faut du rendement, de l'efficacité et surtout de s'y retrouver économiquement pour les investisseurs d'un club, et quel que soit le sport. Et aujourd'hui, même si Ronald O'Gara est l'homme de la situation, ce que je pense aussi, et c'est surtout un formidable manager s'il se remet un peu la tête à l'endroit pour passer cette crise, parce que c'est un bon manager dans le sport, c'est pas qu'un mec qui gagne, c'est aussi un mec qui sait traverser les crises pour relancer une équipe qu'il connaît depuis longtemps. C'est pour moi pas ma philosophie, on jette quand ça va plus. En revanche, c'est ça le sport aujourd'hui. Et moi, j'ai un exemple dans mon sport. Vincent Lavenu, qui a monté sa boîte et cette équipe de toutes pièces, les partenaires ont trouvé que c'était temps de changer. C'est dehors, merci, au revoir. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Et on peut plus s'étonner de cela. Et si demain, Ronan O'Gara doit se faire virer, ça sera une surprise.
Mais ça choquera
pour
tout le monde. Alors, au même titre,
ça choquera, mais le mec qui met l'oseille, il n'en a rien à faire. C'est ça, le sport. Et malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, s'appuyer sur les valeurs de Ronan O'Gara, les valeurs de l'Ovalie, les valeurs du rugby, oui, on a envie d'y croire. Mais je suis pas sûr que ça va arriver. on a dans d'autres sports. Alors, Labitte n'a pas fait la légende du stade français, mais ils l'ont mis dehors quand même. C'est dehors, ça marche pas. C'est dehors. Qui aurait cru que ce garçon-là, qui œuvrait pour la réussite du stade français, se serait fait mettre de côté comme un malpropre. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe en interne? On ne sait pas. Quand on entend le joueur dans son interview parler de son entraîneur, il te parle de contrat. Bongarit. Son entraîneur. Il a pas envie de le lâcher, mais bon, il te parle du contrat de son entraîneur. Il dit quoi qu'il arrive, de toute façon, on sait que c'est l'homme de la situation jusqu'en
2027.
C'est l'homme de la situation. Point final. Tu parles pas de date si t'as profondément envie que le mec y reste.
Ok, il a ouvert une brèche. C'est ça. En tout cas, t'as senti.
Moi, j'ai jamais entendu un mec me dire t'es l'homme de la situation jusqu'à la fin.
Jusqu'à une date.
Parce que t'as un contrat. Okay,
mais Ronan O'Gara, depuis ses dernières conférences de presse, c'est pas qu'il tend le bâton pour le faire battre, mais on a l'impression qu'il tend le je sais pas
parce
quelque chose.
Mais
comme s'il voulait parler avec la direction.
Non, mais je pense qu'il cherche aussi des leviers. Il tente plusieurs stratégies de dire les joueurs sont mauvais, je suis mauvais. Enfin, il tente aussi d'avoir chercher une réaction pour quelqu'un. Réveiller son groupe.
Ouais. Ok, les copains, merci Pierre Thévenet d'avoir été avec nous. Évidemment, la situation de La Rochelle, j'imagine que vous allez en parler dans le podcast de référence de rugby sur RMC. Ça s'appelle Entre les poteaux et l'enregistrement, ce sera demain. Un point avec Léna Marjac à Kranjska-Gora après le slalom. La première manche, il y aura. Trois Français en deuxième manche, Léna, c'est ça?
Oui, trois Français. Victor Mufajandé est allé chercher le 26e temps de cette première manche. Steven Ami est lui 10e. Malheureusement, deux grosses fautes lui ont coûté cher puisqu'il est à 1 seconde 30 de Loïc Meillard, le vainqueur de cette première manche, le Suisse récent champion du monde de slalom. Et donc, Clément Noël, lui, est 5e. Il est dans le coup parce qu'il est à 4 dixièmes du Suisse Loïc Meillard. Donc, tout va se jouer tout à l'heure à partir de 12h30 pour cette seconde manche. Donc, avec trois Français, Mufajandé, Ami et Noël.
Et on sera là pour suivre ça avec toi, évidemment, Léna Marjac. Merci. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est extrêmement serré. Qui a remporté sa contre-attaque? Les GG. Oui, il y a un vainqueur. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, toujours avec Marion Bartoli, Sarah Piskowski, Jérôme Pinault, Simon Dutin. À partir de 11h, on parle de l'Olympique de Marseille. L'affaire Longoria peut-elle plomber l'OM sur cette fin de saison? Les GG ne sont pas d'accord, mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les grandes gueules.
RMC. Les GG contre-attaquent.
Ah, ça a été incroyablement serré. Limite, c'est une première dans l'histoire des GG contre-attaquent. Car il y a une personne avec 28,7% des voix. Et il y en a une autre avec 28,4% des voix.
Oh là là !
Voilà. 28,4% des voix. Pour Simon Dutin son sujet improbable sur le hockey sur glace.
Vous êtes tous moqués.
Incroyable. La victoire de Jérôme Pinault, 28,7% avec la Rabobank qui va faire son retour dans le cyclisme. Jérôme, on t'écoute.
Eh bien, c'est une nouvelle que l'on a appris cette semaine, le retour du sponsor, du partenaire historique de cette équipe qui est devenue Visma Lease Bike, le retour de la Rabobank, cette équipe Rabobank qui avait été une équipe dominatrice, mais aussi très contestée pendant les années 90. On se rappelle de la prise de parole de Jean-Cyril Robin, Landard Paris-Nice, lorsque une équipe de Rabobank surmotivée et surtout très surboostée avait écrasé Paris-Nice. Jean-Cyril Robin avait déclaré à l'époque qu'il y avait bel et bien un cyclisme à deux vitesses. L'équipe Rabobank est une équipe qui a quitté le peloton après de nombreux aveux de ses coureurs dans un journal néerlandais pour en 2013 avoir les aveux de la moitié de l'équipe, les trois quarts de cette équipe. Et n'oublions pas que ce sponsor, Rabobank, qui revient avec la grâce de tous et ravi, avait quitté cette équipe en plein milieu de saison. L'équipe était devenue blanco pour essayer de sauver les meubles et de sauver les quelques coureurs qui n'avaient pas eu encore recours au dopage.
Il avait plus blanco que Blanco.
Et il s'était appelé Blanco. Pour cette région, j'y sais, incroyable. Blanco n'était pas un sponsor, c'était le reste du budget, okay. On avait appelé cette équipe Blanco.
Génial.
Aujourd'hui, dans le monde du cyclisme, on est très heureux de voir le retour d'un partenaire, d'un grand partenaire. Oui, certes, mais est-ce que, en ce moment, et je vous pose la question, est-il bon pour le cyclisme, pour ce sport, de voir revenir un sponsor qui porte les stigmates d'un cyclisme d'antan? Je vous fais une comparaison. Demain, Jean-René Bernodeau perd son sponsor. Est-ce que vous trouveriez et vous verriez d'un bon œil le retour de Festina dans le peloton?
Je rappelle que c'est un sponsor maillot, évidemment. Ce n'est pas pour reprendre le nom de l'équipe.
Le sponsor majeur, pour l'instant, JC, est encore engagé un an.
Bien sûr.
On suppute avec le projet global, puisque Rabobank en plus, dans cette déclaration, va très loin en disant qu'ils veulent revenir pour laver l'image sale qu'ils avaient laissée jusque-là. Et donc, ils ont un projet global sur le projet masculin, le projet féminin et l'éducation du cyclisme aux Pays-Bas. On peut facilement se dire que dans très peu de temps, ils vont devenir partenaire principal.
Avant de vous laisser la main, d'autres précisions. Je rappelle que Rabobank, c'est une banque néerlandaise. C'est donc le sponsor qui, à un moment donné, a été controversé. C'est pour ça, d'ailleurs, que Rabobank s'est retiré du cyclisme professionnel en 2012 à la suite d'affaires de dopage. Le PDG de l'institution financière a déclaré, à propos de ce retour donc de Rabobank, « Nous revenons à notre vieil amour, le cyclisme. Il est convaincu que le monde du cyclisme permet à nouveau un sport propre et équitable. » Fin de citation, c'est ce qu'il nous dit. Je sais que tu veux réagir, Jérôme. Oui, Sarah.
On est bien obligé de prendre en compte le bénéfice du doute et le fait que, effectivement, c'est cette banque néerlandaise veuille opérer ou œuvrer pour un autre type de cyclisme. Enfin, on peut l'avoir, ça, comme motivation. Je suppose que le PDG de Rabobank aujourd'hui n'était pas celui d'il y a quelques années. Ça a dû changer entre-temps.
Non, en revanche, la personne qui était en relation entre le sponsor de l'équipe et l'équipe,
oui.
Donc qui était quand même supposé savoir ce qui se passait un peu dans l'équipe. Je ne sais pas. Je vais recevoir quelques mails à la suite de ça. Cet homme-là s'appelle Richard Plug. Aujourd'hui, le patron de l'équipe Jumbo Visma Liseback, c'est Richard Plug. Voilà. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est que si les équipes avaient envie de se doper, ils n'ont pas besoin de Rabobank.
Mais c'est pas ça. C'est pas
C'est sur l'image du cyclisme. C'est-à-dire qu'un sponsor comme Festina qui revient dans le vélo.
Est-ce qu'on doit ouvrir la porte à ce type de pensionnaire
C'est pas le côté financier. Moi, au contraire, tant mieux. C'est peut-être même inquiétant de retrouver des vieux sponsors qui reviennent parce que ça veut dire qu'on n'en trouve pas des nouveaux. En revanche, pour l'image de mon sport, moi j'aime mon sport, comme vous le savez tous. Je me demande si c'est très bon, sachant que les personnes intermédiaires sont encore à peu près les mêmes.
Toi, Simon, toi qui as suivi le vélo, peut-être même à ces époques de Rabobank, tu en penses quoi ?
Ouais, je pense que c'est pas fou, non. En effet, pour l'image du vélo. Alors moi, j'ai toujours été un ravi de la crèche, hein, tu vois. Avant que les preuves tombent, je croyais toujours à l'innocence des coureurs. Donc bon, à ce titre-là, en effet, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et en effet, s'il y avait eu la possibilité de trouver un autre sponsor, je pense que ça aurait été super. Après, on sait bien que l'Isma Visebike, ce qu'on pense d'eux, c'est le cadet de leurs soucis.
Bien sûr.
Ils s'en fichent éperdument, donc bon, on verra. Moi, j'ai toujours tendance à croire en l'avenir, voilà, à avoir la foi, l'espérance dans une amélioration. Donc, j'ai pas envie de me dire que parce que Rabobank revient, c'est le retour des heures sombres du cyclisme ou la certitude que ça va tricher, mais.
Bon. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Je rappelle tout de même qu'à la suite de cette affaire, le médecin belge de l'équipe, Geert Leinders, avait été suspendu à vie en 2015 en raison de plusieurs violations des règles antidopage quand il exerçait à la Rabobank. Et en 2013, plusieurs membres de la formation néerlandaise avaient avoué que les coureurs étaient dopés de 1997 à 2012. Avec notamment le plus illustre Rasmussen.
Les choses parce que beaucoup m'interrogent, vous interrogez souvent sur pourquoi toi t'es comme ça, Jérôme, pourquoi toi? Parce que nous, on est arrivé dans le peloton en 2002. Et en 2002, on nous a dit, les affaires sont derrière nous. On parle de 2012. Ça a duré 10 ans.
Ouais.
On a continué à un peu se foutre de nous et voir un peu plus.
Marion, sur le sujet personnel, merci, ou tu veux rajouter quelque chose?
Ah ben je pense que Rasmussen doit être très content, mais qu'on nous rende aussi Saunier Duval, le fabricant de chaudières qui sponsorisait Ricardo Rico, l'eau qui me freinait dans l'école, comme ça au moins la fête sera totalement
réussie. Et là on le sait aussi.
Voilà. Allons-y jusqu'au bout.
Le retour de partenaires dans le vélo, je serais ravi de voir. Et demain, si le patron du Crédit Agricole veut faire une équipe, qui m'appelle, on va faire une équipe. C'est la façon dont c'est fait et la façon dont on communique là-dessus qui me gêne le plus.
Eh ben c'est parfaitement clair. Merci en tout cas pour cette contre-attaque et bravo une nouvelle fois d'avoir gagné, mon cher Jérôme. Je rappelle aussi, on parle de vélo, quoique on parle du vélo d'à côté, hein. Mais pour parler vraiment de vélo, c'est ce soir dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, avec l'interview exclusive avec le champion slovène Tadej Pogacar, invité donc sur RMC Sport avec Marion. Il parlera notamment de l'image du cyclisme et du dopage,
oui,
dans cette interview. C'est ce soir à retrouver sur RMC à partir de 19h30. Allez, on aborde le dossier olympique de Marseille avec Marion, avec Jérôme. De fans, hein, vous le savez, de l'OM. Est-ce que ça peut plomber cette affaire Longoria, l'OM, jusqu'à la fin de la saison?
Si Cyril veut rappeler, du coup, on l'attend.
Ok.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.